Pour commencer, parlons littérature, parlons art avec un artiste multidisciplinaire,
Un autre Alexis.
un autre Alexis, ben oui, un poète, un musicien, un pianiste et chanteur, donc, qui vient de la communauté de Pessamite. Quoi, Alexis Volant?
Coué, coué, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Oui, merci beaucoup pour l'invitation.
Ah
Bonjour.
ben, c'est notre plaisir de t'avoir avec nous, puis ça a
Absolument.
été notre plaisir de te lire. On va te parler de ton livre un peu, mais plutôt en deuxième partie d'entrevue. Moi, je suis bien curieux de ton parcours. Je lisais dans la recherche que tu es un artiste, un musicien depuis à peu près l'âge de 4 ans.
Oui, voilà, j'ai commencé les cours de piano à l'École de la musique Côte-Nord avec Ginette Dansereau, Nicole Champagne, Abécomo. Donc, à peu près, je pense, 45 minutes, une heure là, de Pessamite.
OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené au piano? Parce que on le sait, il y a beaucoup des nus, on l'entend souvent, qui jouent de la guitare. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers cet instrument-là en premier?
Oui, c'est mon père qui jouait de l'orgue.
OK.
Il l'avait appris avec les sœurs quand lui, il était jeune. Et souvent, on lui demandait là, de jouer de l'orgue pour la messe de minuit à Noël ou à d'autres occasions aussi à l'église. Et je crois que pendant un certain moment, même, c'était le seul à encore jouer de l'orgue. Puis quand j'étais bébé, des fois, ma mère, elle m'emmenait à l'église. Et pas trop, parce que je pleurais beaucoup. Et finalement, je crois qu'un jour, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'a, pendant une pause de répétition, là, elle m'a amené au clavier de l'orgue pour me montrer un peu. Là, c'est quand même un instrument impressionnant. Puis elle voulait me montrer. Puis il paraît que je me mettais à jouer un petit peu comme ça, avec un doigt. Puis c'est là qu'ils ont décidé de m'offrir des cours. Puis c'est comme ça que ça a commencé, puis ça n'a jamais vraiment arrêté finalement.
Mais c'était pas fréquent de faire du piano à cette époque-là, dans cet endroit-là en particulier, non?
Je crois que pendant un bon moment, là, j'étais pas mal le seul à fréquenter l'école de musique Côte-Nord. Et bien sûr, jouer du piano, non, c'est ça n'a pas été. Ça c'était pas super fréquent quand j'ai commencé.
Comment
Heureusement, aujourd'hui, il y en a
s'est
beaucoup plus.
aperçu dans la dans la communauté autour de vous?
Je crois que les gens aimaient bien ça. Quand je me rappelle, quand j'étais petit, les gens aimaient bien venir à la maison, là, sur la rue Achigny, sur la rue principale. Les gens venaient souvent pour venir m'écouter. Et heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui apprennent le piano dans la communauté. On entend parler de plus en plus de jeunes, surtout là, des jeunes enfants qui fréquentent aussi l'école de musique Côte-Nord et qui vont voir Madame Champagne, qui m'a aussi enseigné quand j'étais tout petit. Puis,
À cause qu'il y avait un Alexis Volant comme modèle?
Peut-être pas, je sais pas. Je suis bien content en fait que la musique se rend quand même assez sommite à ce niveau-là aussi, mais voilà, donc à mon époque, c'était pas aussi fréquent.
Puis après ça, donc, l'école de musique sur la Côte-Nord, j'imagine que pour poursuivre la formation, il a fallu s'expatrier un peu du Nitassinan.
Ben oui, voilà, on a quitté le territoire, on a quitté la communauté en 2012. Donc moi j'avais 12 ans et j'ai continué le piano à Québec. Donc on est parti à Québec. J'ai commencé à l'école secondaire, au petit séminaire, ça s'appelait dans le temps, et aujourd'hui le collège François de Laval. Et voilà, donc j'ai continué ma formation musicale là. J'ai arrêté pendant quelques années, ça me tentait plus. Et ça a repris à la fin du secondaire, après ce cégep de 5 fois en musique, étudié avec Gérard Lévesque, après le conservatoire. Et maintenant, l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver,
Et ça,
toujours
je
en
suis
piano classique.
intéressé particulièrement à l'aspect vocal. Vous faites du chant, hein, quand vous avez étudié le chant. À entendre votre voix, ça s'entend un petit peu.
Oui, j'ai commencé le chant, ça fait pas très longtemps, le chant classique en tout cas. J'ai commencé une formation classique un peu plus costaude, je vous dirais, là, au début de cette année scolaire. Et là, l'année prochaine, là, je vais faire un double bac. Donc, je commence l'année prochaine à faire les deux concentrations.
En piano puis en chant?
Oui, voilà, exactement.
Et le chant, l'opéra?
Oui, c'est du chant classique. L'opéra, c'est un style qui est quand même qui fait partie du chant classique. L'opéra, c'est pas un style qui fait partie de mes priorités artistiques en ce moment, mais beaucoup plus les mélodies françaises, le lied allemand et le chant choral beaucoup aussi. C'est surtout ce que je fais. Le chant d'opéra fait partie de la formation, bien sûr, mais
Mais vous êtes
y a
particulièrement
différents programmes.
intéressé par le chant choral, là.
Oui, absolument, oui.
Vous faites partie d'une
Oui,
chorale
oui.
à l'université de la
De mon
Colombie-Britannique?
pays. Je fais partie d'une chorale d'hommes de voix basse, okay. Qui ne fait pas partie d'une université, c'est une chorale communautaire, c'est une chorale amateur. Corleone, donc on vient de terminer la saison 2022-2023, donc une chorale formidable sous la direction d'Eric Light. J'ai chanté aussi un peu avec la Vancouver Chamber Choir, qui est une chorale professionnelle avec Carrie Tolonen et Vancouver Youth Choir, donc le chœur des jeunes de Vancouver aussi, qui est un ensemble formidable. Donc je m'implique beaucoup dans la communauté chorale de Vancouver et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
On le voit un peu dans tes écrits, Alexis, tu nous parles de colonialisme, de colonisation dans ta poésie. Comment tu vois ça par rapport à l'aspect musical du piano, du chant choral? Tu étudies la mélodie française, le chant plus allemand ou la chorale, qui sont des arts venus d'Europe. Comment tu amènes ta culture inoue dans cet aspect-là de ta vie artistique?
Oui, c'est super intéressant comme question. Je crois que j'ai longtemps vécu avec un certain conflit par rapport à ça, spécialement depuis le cégep, où j'ai commencé moi-même là, à réfléchir plus profondément aux questions que vous venez de mentionner, colonialisme et compagnie. Et je crois qu'en ce moment, être à Vancouver, puis être certainement à UBC, dans cette université-là, il y a beaucoup de place et beaucoup de facilitation, en fait, pour que je puisse autochtoniser mon art le plus possible.
Okay.
À titre d'exemple, dans le cadre de mes études, je dois faire un récital de piano à la fin de chaque année et on m'encourage fortement à venir apporter des compositeurs autochtones le plus possible. Et aussi le fait d'avoir un directeur de musique, le directeur de l'école de musique à UBC est aussi autochtone, il est métis. Donc ça l'a comme beaucoup facilité là, les dernières années par rapport à ça, mais il reste quand même ce conflit-là de nature, d'avoir cette musique-là qui, somme toute, est coloniale. Et l'approche, en fait, que j'ai adoptée, c'est d'autochtoniser, comme je vous dis, le plus possible, que ce soit en chant choral, ce qui est beaucoup plus facile, en piano, ça l'est un peu moins.
Moi, comment on fait ça en piano, par exemple, autochtoniser? Tu nous parlais d'avoir des compositeurs autochtones, mais est-ce qu'il y a d'autres façons aussi pour qu'on puisse entendre un peu l'inou qui est au piano?
C'est assez compliqué. De mon point de vue, où ce que je suis rendu dans la formation, à tout le moins, c'est encore un peu compliqué pour moi de décortiquer toutes ces structures-là. Apporter des compositeurs, c'est ce qui est le plus facile pour moi. Puis des compositeurs qui vont pas nécessairement suivre les normes harmoniques ou de contrepoint, là, du jargon qui vient d'Europe justement, là, puis qui date de plusieurs centaines d'années. Mais des compositeurs qui s'éloignent de ça, qui font un peu ce qu'ils veulent, qui font quelque chose à leur image, qui font de la musique propre à leur identité, c'est ce que j'ai trouvé le plus efficace pour l'instant. J'ose espérer me rendre un peu plus loin et pouvoir trouver d'autres alternatives, bien sûr, mais en chant choral ou en chant solo, c'est toujours plus facile.
On l'ignore souvent. Moi j'évolue dans le milieu de la musique classique depuis très longtemps. Il y a beaucoup plus de musiciens, de chanteurs d'origine autochtone dans ce milieu-là qu'on croirait. J'en ai connu au violon, au violoncelle, en chant. Il y en a plusieurs. Ils ne s'affirment pas nécessairement comme tels, mais ils sont là.
Ils sont là, oui, nous sommes là. Et je crois que c'est une surprise qui vient à chaque fois. Des fois, quand j'en parle, j'étudie en musique classique autochtone. Non, des fois, on a la surprise. Oh mon Dieu, c'est tellement rare d'entendre ça. Partout au Canada, on est quand même un bon groupe là, de compositeurs, de chanteurs, de cordistes, de pianistes, comme vous le dites. Puis je crois que ensemble, même si on est tous un peu séparés, éparpillés, on est tous en train d'avoir de compléter un but commun, d'essayer de, comme je vous dis, d'autochtoniser ou de peut-être même décoloniser cet art-là, que ce soit sur scène ou en pratique privée.
Après le bac, est-ce qu'on pense poursuivre vers une maîtrise puis éventuellement un doctorat pour devenir professeur de musique ou le but, c'est plus de devenir un artiste de scène?
Aucune idée.
Aucune idée, OK.
Je viens de terminer ma troisième année de baccalauréat. J'adore la musique. La musique va faire partie de toute ma vie, ça c'est clair. C'est sûr que des études post-bac, ça m'intéresse beaucoup. Carrière de professeur, une carrière de pédagogue, c'est quelque chose qui m'intéresse, bien sûr. Ce que j'aimerais beaucoup faire, par contre, c'est de la chorale. Faire ça à temps plein, et c'est pas nécessairement réaliste toujours, mais
Pour la diriger.
Oui, que ce soit en direction ou même de chanter aussi dans des chorales, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un art qui me passionne et c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. Et sinon, bien sûr, des études en droit m'intéressent beaucoup, mais bon, là, je dérape un peu dans mon futur, puis je verrai ce qui se passe après le baccalauréat.
C'est quoi vos préférences en chant choral ou en mélodie française ou en lead allemand, etc.?
Il y a beaucoup de couches différentes. Je crois qu'en tant que pianiste, j'adore en fait le art song, justement le lead allemand. C'est merveilleux à jouer. Je trouve ça beaucoup plus intéressant à jouer que le piano solo, en tout cas, personnellement. Tu prends les chansons de Schubert, par exemple, ou de Schumann, c'est merveilleux et ces chansons-là sont incroyable. L'été dernier, avec Elisabeth Saint-Gelais, une soprano de Montréal, elle vient de Pessamit aussi. Nous avons fait un récital à Pessamit pour les festivités du village et nous avons joué quelques chansons. Puis ça a été un moment formidable. Je me rappelle, on a fait Chanson triste de Henri Duparc et plusieurs autres. Puis ça, en tant que pianiste, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. En tant que chanteur, c'est le chant choral beaucoup. Le chant choral, le fait de chanter avec des gens, le fait de partager la musique, de chanter en communauté, ça c'est merveilleux. Puis ça me rappelle beaucoup la maison. Ça me rappelle beaucoup ce qui me manque depuis que j'ai 12 ans, depuis que je suis parti de la communauté.
En quelle section de la chorale vous chantez, là?
Je chante en haute basse, donc je suis un baryton dans la chorale. Et oui, c'est ça. Donc si on prend une chorale mixte, sa voix mixte, là je suis dans les basses et voilà.
Alexis, on va prendre une petite pause musicale. On revient puis on parle du livre de poésie tout de suite après.
Oui, à bientôt.
Alexis, voilà.
Nipi Napunan. Est-ce que je le prononce bien, poésie, Alexis?
Oui, absolument.
Oui.
Ce livre-là tient compte. On voit tout de suite l'influence classique, ne serait-ce que dans sa division. Il y a une ouverture, il y a un premier mouvement qui est Allegramente, il y a un deuxième mouvement à la Adagio Assai. On voit l'influence de la musique déjà, mais dans le texte aussi.
Oui, je crois que la structure du recueil qui a été inspirée par le deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel, la musique a vraiment été là en trame de fond pour moi et ça a été très important pour moi d'amener ça, cette portion-là de ma vie au sein du recueil.
Qu'est-ce que ça veut dire Nipi Napunan? Nipi, si je me rappelle bien, ça veut dire de l'eau.
La racine, en fait, du mot, c'est « nipen », qui est okay. L'été. C'est vrai aussi qu'on a « nipi » de l'eau. Ça vient d'un dictionnaire Ino et Moon que j'avais trouvé en ligne, qui est accessible à tous. Et chercher des mots qui avaient un rapport à l'été, parce que la trame narrative se déroule à l'été, on publie le recueil en été, je l'ai écrit en été. Donc, « nipi napunan », là, on va passer l'été. Moi, quand je l'entends, là, à voix haute, « nipi napunan », j'entends beaucoup plus l'action. Ah, c'est là qu'on s'en va s'installer pour l'été. Pessamit, Nini Penapenan, on va à Pessamit pour l'été. C'est pas nécessairement dans le vocabulaire de tous les jours, on l'entend pas beaucoup, mais je crois qu'il y a certaines communautés qui l'utilisent plus que d'autres.
Puis là, on voit Pessamit par la plage, la grande et magnifique plage de Pessamit sur le livre.
Oui, voilà, donc on peut reconnaître l'église, là, si on regarde bien. Et on a toute la rue Medudu et l'Aldot qui s'étend le long du fleuve. Et très content avec la couverture. Travail formidable qui a été fait avec ma graphiste.
Dans la forme des poésies qu'on y trouve, il y en a des très, très belles, je vous le dis tout de suite, on a beaucoup aimé. On reconnaît un peu la forme du lead et aussi des arrières français. Hein. Il y a du Debussy, il y a du Duparc là-dedans, là.
Oui, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'influence qui est venue de ça. En tant que pianiste de collaboration, pianiste d'accompagnement, on étudie beaucoup la poésie, sur la poésie française en allemand ou la poésie de Shelley et Keats en anglais. Définitivement, ça a fait partie, inconsciemment peut-être, parce que ça fait partie de mon imaginaire en général. Je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi dans cette écriture-là.
Est-ce que ça serait possible de nous lire peut-être quelques poèmes comme... moi, j'aimerais bien entendre le poème de la page 49.
Ah, 49.
C'est en Innu.
Ah, oui.
On n'entend pas assez les langues autochtones à notre émission, là, donc à chaque fois qu'on a une occasion...
pas très long, la page 44. Alors...
49...
Oui, c'est ça. Alors, no mediation, je suis égout, que le bachat ne peut aucun, je custom, je dois pas joindre, je gagne, je peux connaître, je suis en action, je nous délai l'an, je te suis, je châtime, je dépoint, je l'ai l'an. Voilà, donc...
De quoi parle ce poème-là?
Le mieux que j'ai pu faire avec mon Inu et Moon très, très approximatif. je crois que c'est ça, c'est un choix conscient, en fait, de laisser plusieurs poèmes sans traduction. C'est sûr que le modèle souvent suivi par Joséphine Bacon, qui est un poème en Inu, un poème en français,
ouais.
C'est un modèle que j'admire beaucoup et... longtemps, je pensais qu'on allait mettre ces poèmes-là en traduction française aussi, juste en dessous. Mais c'est des réflexions qui sont très... premièrement, en fait, le poème au complet, c'est des réflexions, hein, c'est des réflexions intérieures. C'est pas des choses que cette jeune femme-là, elle dirait à qui que ce soit. Et je crois que, tout comme moi, en fait, cette jeune femme-là, elle a gardé des petits morceaux de son Inu et Moon natal. Et des fois, ça peut être un peu plus réservé, en fait, pour elle. Et ce poème-là, à titre d'exemple, c'est en tout cas, comment que je me l'imaginais, c'était purement passer la nuit dans la tente, dans la cour arrière. Chez ma grand-mère, je me rappelle, il y avait une tente pendant longtemps. Et des fois, on allait passer la nuit là-dedans. Et, c'est simplement parler de la chaleur qu'il y a dans cette tente-là pendant la nuit, en plein été. Et, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement d'éléments actifs ou d'éléments narratifs explosifs nécessairement. Mm-hmm.
D'avoir fait le choix comme ça, d'avoir inclus l'Inu Aimun dans le livre, c'est un exercice de réappropriation parce que ça a dû être difficile pour conserver la langue, ne plus être dans la communauté à partir de 12 ans pour la pratiquer. J'imagine on peut le faire à la maison, mais après ça, les études nous amènent un peu partout, jusqu'en Colombie-Britannique. Ça doit être un petit peu plus difficile pour garder la pratique.
Oui, ben je pense qu'on vient de l'entendre. Je pense qu'on vient d'entendre cette difficulté-là.
Ouais, ben c'est oui, pas mal mieux que le mien, que mon Inu Aimun à moi là. Mais...
dès que je retourne dans la communauté, que je me remets à parler Inu Aimun à certaines personnes, je pense qu'on l'entend très bien que mon Inu a été teinté de plusieurs choses. Puis je me considère quand même chanceux d'avoir réussi à écrire cette poème en Inu Aimun. Je suis quand même chanceux d'avoir la capacité là de tenir de petites discussions, là, de petites conversations. Il y a des mots là, à m'échapper, là, je vous dirais. Puis des fois, ça va causer des fous rires à la maison. Mais oui, comme vous le dites, un exercice de réappropriation. J'essaie le plus possible de continuer à écrire, à lire et à parler l'Inu Aimun. Mais à Vancouver, ça peut être très dur parce qu'il n'y a personne d'autre presque. Ouais, je connais pas.
Tout ça, de parler comme ça, oui.
Voilà, donc... Et quand j'appelle maman ou papa, souvent on se parle en français ou si on se parle en Inu Aimun, ça va être très, 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 très limité. Et voilà, oui, ça peut être quand même assez dur.
Il y a un commentaire que j'aimerais entendre de votre part sur quatre petites lignes de la page 32 de votre livre. Et c'est marqué « Il n'y a pas de mot liberté dans ma langue. Tu dis qu'on peut peut-être la trouver, mais puisqu'on l'a perdue, il nous faudra l'inventer. »
Oui, donc... C'est une distance qui m'importe beaucoup. Encore une fois, là, on parle de cette relation-là, de cette relation de couple dont cette jeune femme-là fait partie. Et je peux quand même vous dire là, candidement que c'est pas quelque chose qui m'est pas familier du tout. Là. C'est quelque chose que moi-même j'ai pu vivre à certains moments dans ma vie personnelle. Est-ce qu'il y a un mot liberté en Inu Aimun? Moi, en tout cas, s'il y en a un, je le connais pas. Est-ce qu'il y en a un, peut-être? Je crois que la nature, en fait, de cette distance-là, c'est que je pense que c'est quelqu'un avec qui je travaillais il y a plusieurs années. On avait un projet d'autodétermination à Pessamit, ça s'appelait Eshketinot. Et on avait beaucoup de discussions intéressantes dans le cadre de ce projet-là. Puis quelqu'un m'a dit on cherchait un mot pour liberté parce que ça avait parti d'un autre panel de discussions. Ouais, mais ce mot-là, nous, on l'a pas.
Ouais, ben
ce mot-là, nous, on l'a pas vraiment.
En lisant le livre de Naomi Fontaine, je pense que le mot liberté, c'est ne pas être enfermé en Inu.
Ben voilà, c'est ça. Donc le mot littéralement là, de liberté, c'est ça. On est comme passé par la négation parce que nous étions libres de nature. Donc je crois qu'en fait, c'est cet événement-là qu'est le premier contact, hein, plus loin en fait le colonialisme, tout ça, ça l'a créé en fait ce mot-là finalement. Mais donc voilà, donc cette sens-là parle beaucoup de ça. Et avoir des langages différents, ben, c'est aussi avoir des perceptions différentes par rapport à toutes sortes de choses. Puis je crois que c'est une forme de naviguer un peu tout ça là, à travers le recueil.
Quand on fait le mariage entre toute la culture autochtone et celle des coloniaux, hein, en musique chorale, c'est, vous le dites vous-même, c'est de la musique très coloniale, ça me fait penser à un mariage qu'il y a déjà eu, vous devez le connaître, en Amérique du Sud, qui s'appelait la Missa Criolla à l'époque, où on jouait avec des rythmes et des mélodies sud-américaines, mais avec des structures de musique classique à musique chorale. Est-ce qu'éventuellement ça pourrait être envisageable ici?
Je crois que dans toutes sortes de contextes, que ce soit dans le recueil ou dans la musique en général, il y a beaucoup de il y a beaucoup de métissage qui est possible. Il y en a définitivement beaucoup qui se fait. Juste cette semaine, j'entendais parler de Chris Dirksen, compositrice anglophone qui vient de sortir son powwow orchestral. Je crois que c'était au Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas. Une compositrice autochtone fabuleuse, vraiment. Là, j'adore son œuvre.
Qui va être au tambour, je pense, pour diriger l'orchestre?
Je crois que oui, c'est ça. Et le powwow symphonique là, qui s'est fait là, dans les Maritimes. Donc, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'exemples là, de mariage, comme vous venez de le dire. Puis je crois que l'intention derrière tout ça, en tout cas pour moi personnellement, je suis pas un grand fan de décolonisation nécessairement. Je crois que la décolonisation, ça a une place dans nos discussions, je crois que c'est important, mais dans ma compréhension du terme, il y a beaucoup un esprit de suppression. Et au niveau artistique, je crois que la suppression, c'est pas nécessairement moi quelque chose que je recherche. Mais je vais toujours chercher à amener ma culture innu, ma culture autochtone, dans ce que je fais pareil. Mais là, on parle de décolonisation. Alors, dans ma tête, je parle des deux, puis je pense que dans le recueil aussi, même si on entend peut-être une influence de Debussy ou du Parc ou quoi que ce soit, c'est quand même une espèce de macédoine, en fait, de tout ça. Puis je pense que je finis avec un résultat qui est multidimensionnel plutôt que, OK, ça, là, c'est purement autochtone, il n'y a rien de colonial dans ça. C'est ça. Donc, je pense que j'ai adopté comme une approche quand même assez différente pour ce recueil.
Alexis Volant, Chikastimaton, Nipi Napunan, donc poésie aux éditions Anénorak, c'est disponible. Est-ce qu'on va, te voir en spectacle éventuellement?
En récital, en concert?
Peut-être. Nous allons aller à Sherbrooke pour le 14 juin, donc à Chacun-Pé-Fontaine. Nous avons un événement là-bas. Et sinon, pour tout ce qui est musical, je prends une petite pause, donc pour l'été.
On revient tout de suite pour la deuxième demi-heure. Bientôt. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.